programme original. Soyez les bienvenus avec Leïla Kamerounadine.
Bonjour à tous.
Hier, vous voyez complètement
Bravo Daniel.
Bonjour. Et notre invité Pierre Ménès. Ça va, Pierrot ?
Ça va.
Bon, ravi de vous accueillir. D'autant que c'était mal barré. C'est moins qu'on puisse dire quand on lit votre livre. Ça s'appelle Deuxième mi-temps. Témoignage ou presque un journal de bord de tout ce par quoi vous êtes passé. Mais d'abord, je voudrais être sûr que le maréchal ait bien compris pourquoi Pierre Ménès est notre invité.
Affirmatif. Et j'aimerais, mon cher Nagui, que vous arrêtiez de me faire passer pour un type qui sucre complètement les fraises. Tout ça pour masquer qu'une fois de plus, vous n'avez rien foutu. D'ailleurs, pour être franc, cher Pierre Ménès, je me dois de vous rapporter ce que Nagui m'a dit en vous voyant arriver dans le couloir. Je le cite, hein. Merde, Pierre Ménès, maréchal, j'ai jamais vu un journaliste aussi méchant. Il a sulfaté tous les joueurs que je kiffe. Evra, Benzema, Bernard Fa, Nabil A. Et je ne vous parle que des joueurs qui ont un nom. Ce mec, on l'appelle quand même Émile Louis dans les couloirs de Canal. Histoire que pour une fois, Leïla me file un coup de main, je ne sais pas ce qui me retient de lui rappeler, que dans le journal L'Équipe, certes il y a 25 ans de cela, Ménès avait qualifié des basketteuses et footballeuses de grosses dondons qui étaient certainement trop moches pour aller en boîte le samedi soir. Pardon. Putain, avez-vous continué ? Je cite Nagui toujours. Je la sens pas cette émission. Mais je suis un pro et je vais évidemment lui faire croire que je le kiffe à donf. Mais pour ça, maréchal, j'ai besoin urgent du pitch de son bouquin. Alors là, c'est le maréchal qui reprend la parole. Alors le pitch, le voici.
Le pitch.
Vous savez que j'ai du mal
avec l'espagnol.
Mon complément dentaire. C'est l'histoire d'un type qui a mal au bide et c'est pas la gastro. Voilà. Ah, ça vous coupe le sifflet.
C'est bien,
hein.
C'est bien.
Ça
non, vous coupe mais le sifflet. C'est efficace.
Un récit c'est bouleversant. Rapide. Qui m'a ramené 63 ans en arrière, au moment terrible où moi aussi, j'avais survécu grâce à un don d'organes. C'était en 1954, en Indo. La nuit, autour du fortin, rôdait un tigre mangeur d'hommes. Pour le capturer, je fis creuser une fosse hérissée de bambous empoisonnés à la viette. Restait à tirer le fauve à moustache. La chèvre du village était décédée suite au trop-plein d'affection témoignée par mes légionnaires. Je me suis donc rabattu sur mon épouse d'alors, Frotti Frotta, la fille d'un Maharaja Tamoul et Maharaja Lamouker. J'en étais dingue. Et tous les soirs, je la taquinais en lui disant « Prépare-toi, je vais chez les Tamoul. » Bref.
Oh non.
Après, mais si.
Non.
Mais si.
Mais non.
Mais si.
Trop
tard. Taisez-vous. Il a fait. Respectez mon passé. Bref, après l'avoir couverte d'une peau de bique, je l'attache à un piquet. Une seule consigne, faire « bé, bé, bé ». Dans la nuit, un rugissement terrible me met les poils. Le tigre, le tigre. Et comme je ne suis pas du genre joueur de Ligue 2, je tire dans le cadre. Une balle à ailette. Et avec le recul, c'est moi qui tombe dans la fosse. Douleur atroce. Me voici empalé sur un puits empoisonné. Je passe sur les détails, mais Helmut Bormann, le médecin-major, dut m'amputer de la partie nécrosée par le poison. À la place, faute de donneur compatible, il me greffa une trompe d'éléphanto. Depuis, dans toute l'Asie du Sud-Est, on me vénère sous le nom de Maréchal Ganesh, le dieu éléphant. Vous voyez
culture.
Bien vu.
Hélas, c'est pathétique. Depuis cette greffe,
je vous confirme.
Depuis cette greffe, je ne peux rester assis plus de 3 minutes. Ah. Je vais donc devoir vous quitter. Nous avons souhaité une bonne émission.
Merci, Maréchal. Merci.
La boule originale, Nagui, sur France Inter.
Pierre Ménès, qui est rené ou né à nouveau le 12 décembre dernier, c'est vraiment ce que vous... Vous gardez cette date comme date de naissance, de renaissance ?
Ah oui, je n'ai pas le choix, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça.
C'est le 12 décembre, jour de l'opération d'une... je ne sais même pas si on peut dire double ou triple opération, tellement il y avait dans votre corps humain, dans votre machine, des pièces à changer et qui ne fonctionnaient plus.
C'est-à-dire il y avait que... le foie et le rein, le reste fonctionne.
Non, il y a cette veine dont vous parlez aussi.
Oui, mais qui enfin, était, c'est une qui... conséquence du foie, c'est la veine qui mène au foie. Donc,
Oui, mais qui risquait de compromettre non seulement l'opération, mais vos jours aussi.
Oui, oui, totalement. Oui.
Et on apprend plein de choses. On vous a greffé un rein supplémentaire et vous aviez à ce moment-là trois reins, puisqu'on n'enlève pas.
J'ai toujours trois reins.
Mais ils vont, ça, comment ça se passe?
Ils vont se nécroser.
Cumulard.
Voilà, totalement.
Et donc il y a un rein qui fonctionne, les deux autres ne fonctionnent pas. Le rein.
C'est un moment qui ne fonctionne plus.
Hein.
J'ai pas pissé du mois de juillet au mois de décembre.
Ah ouais.
Et alors comment...
Comment on fait, c'est ça?
Comment on fait?
On la dépoche, on l'évacue.
On gonfle et on a du liquide d'acide qui se met dans le bide.
Ou les 12 litres qu'on vous a retirés.
Voilà, et j'étais, à la fin, j'ai été ponctionné d'à peu près 10 litres tous les 4 jours. Très sympa.
Alors,
très sympa.
Les détails, vous nous épargnez dans le livre aucun détail, soyons clairs, c'est une espèce d'exutoire. J'ai l'impression que les soins, non seulement il y a l'opération du foie, l'opération du rein, il y a les dialyses que vous avez subies, l'humiliation, même vous parlez par moments que vous subissez dans les hôpitaux et dans les chambres d'hôpitaux quand vous ne pouvez même pas faire votre propre toilette et que vous êtes dépendant du personnel, certains étant très agréables, efficaces, d'autres étant moins délicats et moins agréable, mais est-ce que la totale guérison ne vient pas de ce livre, c'est-à-dire de tout raconter, de dire de l'importance de Mélissa, votre compagne qui vous a sauvé, aidé, comme votre mère qui vous a entendu tomber la première fois, après vous avoir fait une salade de betterave, le détail est important parce que vous ne saviez pas si c'était de la betterave, on a tous mangé de la betterave, on sait que quand on mange de la betterave, on a plutôt le pipi rouge, vous ne saviez pas si ce qui ressortait de votre corps c'était du sang ou de la betterave au moment où vous êtes tombé.
Moi je pensais que c'était de la betterave et puis j'étais pas bien, alors ça c'était en 2015, hein,
ouais.
Donc j'ai vomi un peu rouge, je me dis bon bah tiens c'est la betterave qui passe pas, une deuxième fois encore un petit peu, je dis toujours que c'est la betterave, et la troisième fois ça a été...
Vous tombez?
Non, la troisième fois je gerbe du sang partout et j'ai dû perdre trop de sang d'un coup parce que j'étais me recoucher. Et la seconde fois, quand j'ai voulu aller de nouveau vomir, je suis tombé du lit et c'est en tombant du lit que ça a réveillé ma mère.
C'est le bruit, voilà. On peut parler de votre poids, Pierre, parce que à ce moment-là, vous pesiez.
On peut parler de tout.
Vous pesiez combien?
À ce moment-là, je devais faire dans les 140 kilos.
140 kilos, sans jamais avoir bu une goutte d'alcool, vous dites?
Jamais.
Jamais, jamais, jamais.
Jamais, j'ai horreur de ça.
Mais alors, comment on peut avoir le NAST, c'est ça? Comment
ah bah, cirrhose, la cirrhose NASH, cirrhose. C'est la cirrhose non alcoolique. C'est la cirrhose du couillon. Les docteurs de l'hôpital Beaujon m'ont demandé si j'acceptais d'être l'ambassadeur du dépistage de la cirrhose NASH, qui est une maladie qui touche 6 millions de personnes en France, quand même. C'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras. C'est-à-dire la maladie des gens qui sont ou en obésité, ou en hypertension, ou en diabète. Moi, ça tombe bien, je faisais les trois.
Mais alors, votre problème de santé, c'était pas l'alcool sur le foie, c'était de trop manger?
Oui. Alors, il y a ça, et puis il y a une
ou partie... C'était la mauvaise bouffe, c'était...
Il y a de ça, et puis il y a une partie...
Héréditaire.
Métabolique, oui.
Ouais.
Oui, le foie n'est pas précisément le point fort de la famille, puisque
mon père
est mort d'un cancer du foie à l'âge que j'ai aujourd'hui, à 53 ans. Et j'ai appris assez récemment que j'avais un cancer du foie qui commençait. Quand on développe un cancer du foie, là c'est une cause d'urgence absolue pour la greffe. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « oui, il a été greffé en 5 mois parce qu'il est connu, c'est une immense connerie ».
Alors vous n'étiez pas sur une liste VIP de mecs à opérer parce que les médecins ne cherchent pas des VIP pour les opérer. Il n'y a pas de priorité à la notoriété, heureusement, pour se faire opérer. Par contre, il y a une urgence à la vie. Et vous avez, j'ai découvert dans votre livre qu'il y avait une espèce de classement.
La liste s'appelle Cristal, ouais.
D'accord, un top 50 ou un top 20 de ceux qu'il faut opérer. Et plus vous avez de problèmes de santé, c'est-à-dire non pas un organe mais deux organes, plus cette veine porte qui était bouchée, qui vous mettait en danger, plus vous montez dans le classement, dans l'urgence d'être opéré. Et c'est pour ça que vous êtes inscrit au mois de juillet sur les listes pour subir une greffe d'organes et que l'opération a eu lieu le 12 décembre.
C'est
extrêmement
ça.
Vite, alors que certains...
J'étais prioritaire à partir du 20 octobre, c'est-à-dire qu'à partir du 20 octobre, j'avais mon téléphone ouvert 24 heures sur 24.
Mais c'est considéré comme prioritaire juillet-décembre. C'est quand même très long.
Il y en a qui attendent des
Il y a des gens
des
qui
années.
Sont dialysés pendant 4-5 ans. C'est totalement insupportable.
Et d'ailleurs, vous racontez dans le livre que, avec une forme de cynisme, mais que vous assumez totalement, qu'il y a des périodes dans l'année où on sait qu'il va y avoir beaucoup plus d'accidents sur la route. Et que potentiellement, lors de ces accidents,
l'occasion...
Il y avait le week-end de la Toussaint, le week-end du 11 novembre, qui sont en général assez fertiles en...
C'est meurtrier.
En accidents mortels.
Alors justement, l'intérêt de ce livre, c'est ça. Il y a l'itinéraire individuel, il y a votre itinéraire, votre vie, votre famille, tous les obstacles que vous avez réussi à surmonter. Et puis c'est le cri que vous lancez, c'est l'appel que vous lancez au don d'organes. Un sujet sur lequel vous n'étiez pas nécessairement très très sensibilisé avant, vous, d'être malade et d'être concerné. Et c'est sans doute les plus belles pages du livre quand vous expliquez comment une famille, en prenant la décision, ou l'individu qui nous a quittés, en prenant la décision de donner, vous permet, vous, de vivre.
Oui, c'est ça. Le calcul mathématique, il est assez simple. Cette personne, elle est morte. Mmh. Et moi, si j'avais pas reçu ses organes, je serais mort aussi. Donc on est passé de 2 morts à 1 mort. Donc le calcul, il est extrêmement simple.
Ouais, mais après, au-delà du calcul, il y a la psychologie de la famille d'accepter ce qui. Alors la loi a changé depuis le 1er janvier, heureusement.
Maintenant, c'est pris à l'envers. On va, voilà, on va s'exprimer pour ne pas donner.
Voilà. Mais de se dire, au moment du deuil, quand on perd un être cher, c'est pas forcément la première idée qui vient à l'esprit de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre.
On a perdu son conjoint, son fils, son père, et on dit maintenant on va l'ouvrir comme une boîte de thon pour donner ses organes à quelqu'un d'autre. Oui, c'est une démarche difficile. Il y a encore 40% des familles qui s'opposent.
Qui disent non.
Qui disent non. Et si on arrivait à baisser ce taux de moitié, il n'y aurait plus de problème de greffon en France.
C'est fou ça.
Alors justement, moi je relève un passage dans le livre qui m'a un peu étonnée, je suis allée vérifier. Où vous expliquez, c'est à la fin du livre, page 204.
Des conneries,
ouais, mais là c'en est une.
C'est un peu pour ça qu'on vous a invité aussi.
Non, c'est sur justement le don d'organes et les réticences des familles à ne pas donner les organes du défunt. Et vous précisez, vous faites référence, souvent c'est des raisons religieuses qui font que les familles ne veulent pas donner les organes. Et vous précisez notamment les musulmans pour des raisons religieuses. Or, je suis allée vérifier et les musulmans, comme les juifs et comme les chrétiens, ne s'y opposent pas. Puisque dans aucun texte sacré relatif à chacune de ces religions, il n'est indiqué qu'on ne devait pas donner ses organes. Au contraire, qu'il fallait pouvoir donner la vie à condition que cela n'entrave pas la nôtre. Ça veut dire que si je suis sur le point de mourir ou que je suis morte, je peux donner mes organes. Et à condition également qu'on n'en fasse pas un usage commercial. Donc cette référence-là aux musulmans, je la trouve un petit peu, du coup, elle est fausse, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire, et comme ça, ça nous permet de rectifier.
Je l'ai pas inventé, il y a quelqu'un qui me l'a dit, donc...
Oui, mais moi, j'ai vérifié.
Écoutez, j'avais autre chose à foutre que de vérifier.
Alors, à ce compte-là, mettez d'autres religions, mais là, il n'y en a qu'une seule qui est ciblée, c'est dommage. C'est mon petit point de précision. Vous savez, je suis une journaliste, je suis un peu tatillonne sur les faits, je suis comme ça.
C'est une remarque, vous êtes chiant, vous êtes journaliste. Effectivement, on m'avait fait la remarque que j'avais mis que musulman. Mmh. Alors, je vais pas me dédouaner en disant que c'est pas moi qui ai écrit le bouquin, mais...
Vous l'avez écrit?
Non, je l'ai pas écrit.
C'est en collaboration, avec Catherine Siguret.
Alors, pourquoi je l'ai pas écrit? Pour deux raisons. D'abord, parce que on l'a fait dans les 2 premières semaines de février, et qu'à ce moment-là, j'étais encore trop fatigué.
J'imagine.
Pour me taper 200 pages tout seul.
Non, mais vous avez un éditeur derrière qui vérifie, qui relit, j'imagine. C'est juste ça. Moi, c'est par rapport à la... C'est les faits, la véracité, la vérification.
On l'a remis les pendules à l'heure, c'est l'essentiel.
Parce que j'imagine, si je me plantais sur un score de foot, on viendrait me tacler.
Mais grave.
Coup de pied dans la gorge. Excuse-moi, il y a des priorités quand même.
C'est pas comme pointer une population en France qui ne donne pas.
Parlons aussi du football, parce qu'il y a vraiment il y a 2 livres dans ce livre,
comme dirait
Philippe Labreau. C'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire médicale que vous racontez entre la vie et la mort, et c'est presque un journal de bord où on vit minute par minute l'angoisse, la situation dans laquelle vous êtes, votre vie qui est en danger, cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête en se demandant est-ce que oui ou non vous allez vivre ou survivre. Vous aviez peur d'ailleurs de cette mort? Il y avait des moments de dépression?
Non, la dépression, ça a été après l'opération. Avant...
Advienne que pourra.
Ouais, et puis j'avais peur d'être greffé. J'avais peur d'y rester sur la table, et puis j'avais peur de souffrir, j'avais peur de... Je ne me rendais pas compte à quel point ma vie était insupportable les dernières semaines avant la greffe, où je dormais plus la nuit à cause du foie, où j'avais des crampes tout le temps à cause du foie, où j'arrivais plus à marcher parce que j'avais plus du tout de muscles, et j'avais des gros problèmes d'équilibre. Les deux derniers mois, c'était,
c'était
l'enfer.
Le deuxième livre qu'il y a donc là, c'est évidemment Mélissa, votre compagne, votre maman, la, j'ai envie de dire le cercle le plus proche qui vous a protégé, aidé, porté, mais dans tout, dans le sens même précis du terme.
Sens propre, ouais.
Voilà, au point de se faire mal au dos, parce qu'on imagine que lorsqu'on pèse 160 kilos, qu'on tombe par terre, c'est particulièrement difficile pour une femme.
Ah là, je faisais plus de 160 kilos.
Quand vous êtes, quand Mélissa vous a relevé, qu'elle s'est fait mal au dos?
Ouais. Non, non, bah non, c'était, c'était après.
Enfin, même.
C'était après, après l'opération. Je...
Vous êtes à combien là maintenant? 80?
Je suis à, pas loin de 100.
Pas loin de 100.
Ouais.
D'accord. Ah, vous avez dit que jamais vous ne dépasseriez
les 100.
Bah oui, mais
c'est écrit dans le livre.
Pas loin. Je les dépasse pas.
D'accord.
Pas loin, mais bon. Je suis tombé à 88 kilos et j'avais la peau sur les os. Je fais quand même 1m83, je suis assez large d'épaule. Enfin, je...
Vous dites dans le livre que vous êtes tellement heureux d'être venu à la vie pour votre femme, votre mère, pour tous les gens qui vous ont témoigné de l'amour pendant ce périple, cette odyssée extraordinaire. Et je me dis, justement, dans le message que Mélissa publie à un moment sur les réseaux sociaux pour remercier...
Bouleversant
pour dire,
ce message.
Un oui. message qui est bouleversant ouais. pour dire, on ne sait pas qui vous êtes, mais en tout cas, vous nous avez permis de revivre. Et elle a eu plein de témoignages de gens qui se sont sentis remerciés parce qu'un jour, ils ont donné l'organe d'un de leurs défunts proches. Et je me dis, c'est tellement dommage, si ça se trouve, en vous, Pierre Ménès, vous ne connaissez pas l'identité de la personne qui vous a sauvé.
Non. C'est est-ce que vous aimeriez savoir,
non,
d'ailleurs?
Non. Alors, j'aimerais pas savoir, et je pense que la famille du donneur aimerait encore moins savoir.
Voilà.
Je pense que ça doit être très dur.
On en avait parlé dans cette émission avec Mathias Dionysos, le leader de Dionysos, qui lui aussi a été greffé et était entre la vie et la mort. Et il est retourné voir la famille qui est en Allemagne, si j'ai bonne mémoire.
Ouais,
enfin, pardon si je dis une bêtise, mais en tout cas, il y a eu ce contact qui a été renoué avec la famille.
Il a eu une greffe de cordon ombilical, c'est pas, il n'a pas eu la greffe d'un défunt, donc c'est différent. Je pense que ça doit être très dur pour une famille d'avoir déjà accepté de donner ses organes et de voir quelqu'un, en plus si c'est quelqu'un de connu, vivre avec les organes de son proche.
Ou pas, ça peut être l'inverse.
Mais il y a un risque.
C'est vrai que ça peut être ça aussi.
Il y a un risque.
Alors le deuxième livre, donc, c'est la famille et les proches qui vous ont soutenu, et les potes et les amis du football, y compris ceux que vous aviez l'habitude de tacler, de lapider. Alors peut-être pas tous ceux que vous tacliez et lapidez.
Non, Evra m'a pas envoyé de message de soutien.
D'accord. Mais
c'est peut-être le foie d'Evra que vous avez.
Mais je pense à Jean-Michel.
Le moment que j'ai pas ses jambes.
Je peux arrêter avec ça.
Ah, si,
Mais c'est pas, ça baisse pas tout
oui,
ça.
C'est
quand
même. Dire, oui.
Je trouve ça, c'est complètement dingue.
T'as pas tout compris, là?
Alors, je vous tutoie pas, moi. Mais déjà pour commencer. Mais moi, je sais pas vraiment qui sont tous ces joueurs, donc je vous laisse continuer entre vous.
Jean-Michel Aulas, tu connais, président de Lyon, avec qui vous n'avez pas toujours été tendre dans les remarques, dans les commentaires ou dans les interviews. Et ça vous a surpris apparemment dans le livre, agréablement surpris, on va dire. Pas étonné.
Non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a pas étonné parce que.
C'est un homme élégant.
Parce que tous les gens pensent qu'on est fâché alors qu'on n'est pas fâché du tout. On est juste de temps en temps pas d'accord. Mais voilà, c'est.
Ce qui a été le cas aussi de Thiago Motta du PSG, ce qui a été le cas d'autres.
Lui, il m'a scotché, lui. Parce que, en fait, quand il a su que j'étais malade, il a appelé la production du CFC pour avoir mon numéro.
Du Canal Football Club sur Canal+.
Il m'a envoyé un SMS, donc on a commencé un petit peu à échanger. Et puis le jour où j'ai été greffé, je lui ai envoyé un message, je dis, ça y est, je suis greffé et tout. Il m'a dit, t'es où? Je suis à Beaujon. Il m'a dit, je passe te voir. Et il est venu le jour même.
Et, ça vous a bluffé?
Ah ouais, ça m'a bluffé.
Vous aviez été très méchant avec lui?
Non! Non, j'avais dit qu'il était à la fois tout ce que j'adorais et tout ce que je détestais sur un terrain.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un joueur formidable, mais c'est un chien galeux aussi.
Qui fait quelques méchancetés dans le dos.
Voilà, il est un peu pourri, quoi.
Mentalité
italienne
c'est ça.
Alors qu'il est brésilien d'origine.
Mais il a un grand cœur, il est venu vous voir.
Ouais. Il a la grande classe, surtout.
C'est ça.
Mais
c'est
vous avez peut-être le foie d'un Italien.
Bah arrêtez.
Peut-être d'un Italien musulman qui fait.
ça serait pas mal.
Vos oreilles ont sifflé, Léla, quand on vous annonçait
la venue
la venue de Pierre Ménès.
Et oui, quand je pense à vous, Pierre Ménès, j'entends le spécialiste qui raconte le foot et qui raconte même les actions les moins belles.
J'ai été plusieurs fois menacé par son agent, mais j'avais traité son agent de menteur dans une émission et qu'il avait appelé menaçant de alors que menteur me paraissait le thème le plus aimable que je pouvais évoquer pour lui. Et puis, ça a continué. Il a toujours essayé de mettre la pression. Lorsqu'il a mis des calottes aux journalistes de l'équipe en boîte de nuit au Brésil. Il a nié en disant que c'était qu'il avait toutes les preuves, alors que moi j'ai coupé, recoupé dans tous les sens. Il a bien mis les calottes. Donc voilà quoi. Je connais pas Benzema, donc je peux pas savoir si c'est quelqu'un de recommandable ou pas. Permettez-moi d'en douter.
C'est votre témoignage sur le plateau de Feu touche pas à mon sport où vous racontiez avoir été menacé par l'agent de Karim Benzema. Dans le livre, vous parlez surtout de la solidarité et des attentions de certains joueurs de foot. On vient de l'évoquer comme Gomis à votre égard. Vous parlez aussi du milieu
le
du football.
Le joueur de l'OM.
Ouais, vous parlez. Ouais. Alors ça, je pourrais pas resituer à chaque fois.
Je te dis, non, parce qu'il a bougé. Il était avant à Lyon, maintenant il est à l'OM.
Vous parlez aussi de la solidarité. Et j'ai trouvé ça touchant de vos équipes de télé, du monde de la télé, qu'on décrit comme un monde impitoyable et qui pourtant.
Ça vous a surpris d'ailleurs, apparemment.
On réussit à garder le secret comme un secret médical et était à côté de vous à chaque instant. Là, c'est une autre vision du milieu du foot que vous donnez en expliquant cette histoire Karim Benzema. Est-ce que c'est un cas classique ? Est-ce que c'est récurrent, ce genre d'histoire, aussi dans le football, quand on est journaliste comme vous ?
Ah non, c'est rarissime.
Ouais.
Ah oui, non, c'est rarissime. J'ai été très, très, très peu menacé dans ma carrière. En même temps, je risque pas d'être menacé, je dis la vérité. Donc
Justement, ça pourrait être... En tout cas, ça peut fâcher.
Ah, ça peut fâcher, mais...
Ça fâche pas Benzema directement, c'est son agent.
C'est l'agent.
Je pense qu'il est très fâché après moi.
Quoi. Aussi, quand même, d'accord.
Je pense.
Non, mais enfin, celui qui fait les menaces ou qui frappe les journalistes en boîte de nuit, c'est pas Benzema.
Il faut être clair.
C'est son agent.
Ouais. Pas tout pour les mêmes.
Oui, et j'imagine que maintenant, vous devez être encore plus détaché de ça. Comment est-ce que vous abordez votre métier, votre retour au métier et toutes ces histoires-là.
Qui se passera ce dimanche dans l'émission d'Hervé Matou, donc le Canal Football Club. Sur Canal, c'est le retour de Pierre Ménès, c'est ça que je voulais dire.
La minute de pub va coûter une blinde.
Est-ce que vous allez changer, autrement dit, est-ce qu'il va changer de
manière d'analyser ? Est-ce que vous avez pris une forme de distance,
moi je me posais la même question aussi. Si ça ne relativise pas ce que vous avez traversé, justement, ce qui est, dans le fond, assez dérisoire, parce que ce n'est qu'un jeu. Et là, c'est votre vie qui était en jeu.
J'ai toujours été très conscient que je parlais que de foot, hein, donc... Ouais. Je suis pas j'ai une capacité d'agacement assez élevée, mais je reste dans le foot. Je pense ne jamais être insultant. J'ai la dent dure, mais je suis pas insultant. Donc c'est vrai que vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, je vous aurais dit j'ai peut-être été un petit peu plus mou qu'avant,
ouais.
Ne serait-ce qu'au niveau de ma voix, j'avais perdu ma voix. Et puis j'aurais écouté les interviews que j'ai données à des station concurrente de l'hôpital, c'était chaud quand même. Non, là, je pense que j'ai retrouvé toutes mes capacités d'agacement et d'exaspération. J'ai beaucoup regretté de ne pas être à l'antenne après Barcelone-PSG, par exemple. Là, je pense qu'il y aurait eu du sang sur les murs.
Parce que il y a aussi... c'est pas un personnage que vous jouez. C'est-à-dire que vous ne jouez pas les méchants parce qu'il faut qu'il y ait un méchant sur le plateau. Et sans être méchant, vous voulez juste... Vous réagissez de manière épidermique à ce qui se passe sur le terrain.
Oui, avec un truc dont il faut être bien conscient, c'est que
sans filtre, quoi.
Quand je dis du bien, je le dis de la même façon, mais c'est moins retenu, quoi.
C'est pas retenu.
Si, Dimitri Payet, vous l'aviez soutenu lorsqu'il n'avait pas été sélectionné en équipe de France.
Voilà.
Par exemple. On l'a pas oublié.
Non, lui, il l'a pas oublié. Hein.
Vous avez conscience de la dimension du spectacle. Enfin, quand on est chroniqueur comme ça, quand on commente un match, j'imagine qu'on doit balancer des punchlines, qu'on doit aussi se faire entendre et se faire remarquer.
On doit pas. Je suis comme ça.
Vous êtes comme ça.
C'est souvent caché les footeux. D'abord, ils se vannent beaucoup entre eux. Il y a des tacles verbaux déjà entre footballeurs. Et je pense que c'est d'avoir côtoyé ce milieu-là et de les connaître extrêmement bien qui fait que vous parlez à l'antenne comme ça peut se passer dans les vestiaires ou dans la vie. C'est ça.
Oui, il y a une tradition. Et quand je pense à vous, étonnamment, Pierre Ménès, je ne pense pas au foot, mais je pense à un athlète extraordinaire. C'est normal, c'est un basketteur, une légende, un monstre d'efficacité et d'élégance sur un terrain.
At the end of the day, too, in our community, we got to start accepting those who are gay in our family. That's like my son EJ came out.
C'est Magic, Magic Johnson, qui évoque son soutien à son fils, qui a fait son coming out, et à tous les jeunes gens, homo, issus de la communauté afro-américaine. Je vous renvoie au film Moonlight, qui est absolument merveilleux. Et vous, Magic Johnson, vous avez une histoire avec lui, et pas n'importe laquelle.
Ah bon ?
Oui. Une petite histoire quand même, mais il s'est souvenu de vous.
Oui, il était venu avec les Lakers faire l'Open McDonald's à Paris. Et il n'y avait que deux personnes à l'équipe qui travaillaient au basket. Et à ma grande surprise d'ailleurs, ils sont restés toute la semaine à faire leurs papiers au journal, alors qu'il y avait les Lakers, quoi. Donc moi, j'ai demandé à être détaché une semaine au basket. Donc j'ai été à tous les entraînements, j'ai été lui parler, on a été invité par la marque de ballon à un déjeuner sur les bateaux mouches. Il était venu, il avait serré la main à tout le monde. Et quelques mois plus tard... on avait été aussi à la fondation Ronald McDonald, qui construit des maisons pour les parents des enfants atteints du cancer. Mmh. Et ils étaient allés, il pleuvait à torrent, ils avaient mis un panneau de basket, mais ils étaient tous allés à l'intérieur. Il y en a qu'un qui est allé faire le con avec le ballon tout seul, sous la pluie battante. C'est Magic. Et donc après, il est séropositif. Après, il va faire les JO de Barcelone et ils font un match amical à Monaco contre la France. Et à la fin, bon, c'est organisé par la NBA, on avait les 11 joueurs de la Dream Team en conférence de presse.
Punaise.
C'est fou.
30 minutes. Pas 31, pas 29.
Ouais.
30 minutes.
À l'américaine, ouais.
Avec le joueur assis et des fauteuils autour. Donc, on allait de Charles Barkley à Larry Bird, à Michael Jordan. Et je passe devant Magic et Magic m'arrête et me fait « Hey, comment ça va depuis le McDonald's ?»
Wouch. Mémoire.
Dis, improbable.
Ouais. J'étais très gros à l'époque, ça avait dû le marquer, même un Américain.
Voilà, c'était juste pour évoquer Magic Johnson.
Non, puis à propos de sport, il y a aussi des clins d'œil qui sont faits au tennis, au monde du tennis, que vous aimez aussi particulièrement. On n'en parle pas beaucoup, on n'a pas l'image Pierre Ménès tennis, mais enfin c'est...
Et l'escrime aussi.
C'est le sport que vous... Ouais, l'escrime parce que c'est un...
Gaucher
comme vous étiez gaucher, vous gagniez beaucoup de compètes à l'époque au tennis, et c'est une blessure qui vous a empêché de continuer dans cette...
Oui, j'ai une quadruple fracture du poignet en passant à travers une 4L en mobilette.
Voilà, ça aide pas.
J'ai eu le fémur sectionné aussi.
Mais c'est bien, donc vous êtes un survivor.
Ouais.
C'est solide, les 4L.
Pierre Ménès, deuxième mi-temps, ce témoignage qui est rédigé par Catherine Siguré, et le témoignage de Pierre Ménès, c'est publié chez Kéro. Je ne l'ai pas dit depuis le début. Voici l'humeur de Guillaume Auguin.
Aïe, aïe, aïe.
Bonjour les amis.
Salut.
Tais-toi.
Alors, au risque de briser une carrière qui ne décolle de toute façon pas, la mienne, donc je vais lancer un putain de pavé dans la mare, les amis.
Vas-y.
Je trouve que Donald Trump, franchement, il est souvent mal avisé, quoi. Voilà. Mais tant pis pour vous. Maintenant, fallait pas me donner la parole à l'heure où le chômage écoute.
Ça fait peur.
Ah, je suis hors contrôle. Je suis Travis Bickle dans Taxi Driver. Là, je suis Emile dans La Cité de la Peur. Prenez un chewing-gum, Emile. Non, je vais rien prendre du tout. D'abord, je vais terminer ce que j'ai à dire. Je crois que Zola, il a pris un chewing-gum avant d'écrire J'accuse. Non. Zola, il avait la laine qu'on avait à l'époque, mais c'était un homme de principe. Alors, je vous le répète, au risque de voir Nagui jeter son petit corps tonique à l'abordage de ma liberté d'expression, c'est trop tard. J'ai passé le Rubicon, Trump. Je suis mitigé. Résistance! Alors là, c'est vrai, il a fond dans le charbon, vous savez, il y a le pétrole. Il veut abroger une des lois phares de Barack Obama sur les réductions d'émissions de CO2. Que ça nous serve de leçon à tous, quoi. Je veux dire, Barack Obama, ceci, cela, le président le plus cool du monde, et vas-y que Stevie Wonder chante à la maison pour le brunch, et que ma fille connaît personnellement Beyoncé, que j'ai fait 700 000 retweets, ceci, 4 millions de likes, cela. Ok, très bien, mais à la seconde où ce type, il a quitté la Maison Blanche pour aller faire du kitesurf avec des poissons lunes, c'était terminé, Obama, on n'entend plus parler, quoi. Aujourd'hui, il a autant d'influence sur l'Amérique que Philippe Poutou, quoi. Et on a peu de choses, quand même. Non, mais on a peu de choses, ça force l'humilité. Et le problème, c'est même pas que Trump ait décidé de relancer à fond les énergies fossiles. Je salue l'hommage au maréchal.
Ah, affirmatif.
Et voilà, les énergies fossiles, c'est vrai. Mais le réchauffement climatique, Trump, c'est pas un spécialiste, quoi. Il a entendu parler du truc, mais sans plus, quoi. Pendant que nous, on pleurnichait à fond sur la flonde des glaces et le décollement de la rétine chez les manchots, lui, il faisait du business, quoi. Peut-être pas du goût de Greenpeace, mais aujourd'hui, le mec, il a un avion. Moi, j'ai même pas un passe Navigo, tu vois. Donc, il y a du pour et du contre. En plus, Trump, il a jamais pris personne en traître. On l'a jamais entendu dire dans un meeting, Is my dear friend Yannick Jadot says once. Non. Il suffisait de lire son programme à la rubrique Je m'en branle de l'environnement pour comprendre l'immensité de je m'en branle de l'environnement. Il s'est jamais caché dans un buisson pour le faire discrètement comme Daniel Morin, quoi. Non. Le problème n'est pas là. problème, c'est qu'un type comme Trump, il puisse avoir une influence quelconque sur l'avenir de l'espèce humaine en général, quoi. Imaginez que le nouveau président chinois, il se dise un jour, ah ben, je vais faire rouler toutes nos bagnoles au gaz fréon. Parce que moi, le trou rouge dans la couche d'ozone, je trouvais qu'il y avait un côté sympa, quoi. Je sais pas, c'est tellement dommage qu'on les rebouchait, la lumière passe moins bien et tout. C'est vrai. Imaginez en France, il y a une catastrophe nucléaire et après 15, 20 ans, ben, ça commence à devenir cool d'avoir une malformation. Tu vois, genre, tout le monde, non, mais genre, tout le monde veut un moignon et tout. Ah, trop bien ton goitre et tout, ma sœur avait le même. Et dire, voilà. Mais non, mais. Et que la France se dise, tiens, on va faire une station de fission nucléaire à ciel ouvert, tous les deux McDo, l'uranium en vente libre et tout, ça va relancer l'emploi des Français. Il faudrait des garde-fous supranationaux pour empêcher ça. D'où mon idée de placer à la tête du monde un gouvernement de sages composé des plus grands scientifiques que l'humanité ait porté. Arun Taziev, Albert Jacquard, le professeur Schwarzenberg. Et si j'avais des exemples de scientifiques vivants, je vous les donnerais. Honnêtement, croyez-moi, mais vous avez engagé des chroniqueurs qui bossent plus.
Hubert Reeves.
Oui, voilà, mais c'est pas payant. Vivant.
Il est en pleine forme, Hubert.
Je veux dire, c'est pas en payant les gens une croûte de pain qu'Inter aura le dernier carat de la réflexion philosophique, hein, pas vrai, Lila?
Oui.
Mais je m'en veux de vous avoir réveillé, mais voilà, je dis pas qu'Yves Coppens doit fixer le prix du litre de lait et que Jane Goodall doit imaginer le menu de la cantoche de Radio France, mais sur les grands enjeux qui touchent à la perpétuation d'Homo sapiens, j'aimerais bien qu'on consulte un jour ces gens, moi ça me rassurerait, quoi. Et j'en profite pour dire que Donald Trump vient pas ses cheveux. Résistance! Ouais. Allez, bonne émission!
Oh, courageux!
La bande originale. Pierre Ménès est notre invité, il publie Deuxième Mi-temps, ce témoignage chez Kero. Ce témoignage d'ailleurs, il est fait pour pousser les gens à comprendre ce par quoi vous êtes passé, pousser les gens à, puisque la loi a changé depuis le 1er janvier, maintenant d'office, dès l'instant où l'on décède en France, le don d'organes est forcément accepté. Il n'y a que si la famille dit « on est contre ». Que ça pourrait empêcher que ces organes perdurent.
Ou si on s'est inscrit au préalable sur la liste de ceux qui ne veulent pas être donneurs. On peut le faire soi-même pour ne pas laisser à la famille de cette décision qui est parfois difficile à prendre.
Ah, tu veux dire, on peut refuser...
De mon vivant, je peux m'inscrire sur la liste pour dire je ne veux pas donner.
Mais quelle bêtise.
Je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger les gens.
Les gens font ce qu'ils veulent, mais non, ils font pas ce qu'ils veulent.
On a inversé, hein. Mais on a inversé maintenant le.
Voilà, c'est
le
ça.
Ouais, avant,
alors, c'était, il fallait dire.
Il fallait s'inscrire pour donner l'organe. Mais même si tu t'inscrivais pour donner ton organe, une fois mort, la famille pouvait dire non, finalement,
c'est
nous, on n'est pas d'accord.
Et pouvait récupérer.
Non. Donc ma question, c'est pour qui vous avez écrit ce livre? Pour que les gens comprennent que le don d'organes est important, pour que ce soit un témoignage et un soin supplémentaire que vous, par lequel vous passez, c'est-à-dire une forme d'exutoire pour vous?
Ben, faut voir que j'ai été contacté par 5 maisons d'édition pour faire ce livre. Au début, j'avais pas envie.
Non, mais eux, ils voyaient que l'intérêt commercial. Ils se sont dit, Pierre Ménès qui raconte cette histoire, ça va vendre et ça va intéresser ceux qui vous suivent, ceux qui vous connaissent. Ça, on peut le comprendre.
Mais d'accord, votre démarche, à vous. Moi, j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de raconter ma vie. Et puis j'en ai parlé à mon entourage, qui m'ont dit, enfin, c'est quand même bien de témoigner par rapport au cadeau que t'as reçu, au don. Donc finalement, j'ai changé d'avis et j'ai accepté de faire ce livre. Mais oui, effectivement, ce qu'il faut, c'est...
C'est que les gens acceptent de donner.
Alors, ce que je regrette, c'est que le livre soit sorti avant que j'ai pu parler du dépistage de la cirrhose NASH, parce que ben, c'est ça dans la médecine, c'est que tu passes ton temps à découvrir des choses nouvelles.
Mmh. Ouais.
Donc ça, ce sera mon investissement principal.
Puisque vous serez ambassadeur de ce dépistage.
Voilà, parce que ça touche, encore une fois, 6 millions de personnes en France. Et que, alors, quand tu as une cirrhose NASH, tu finis pas toujours greffé. Il y a des gens qui vivent avec. Mais bon, une fois que tu l'as dépisté, tu peux trouver un traitement. Et
en fait, votre combat à partir de maintenant sera contre le surpoids aussi, puisque tout part de là, de la malbouffe.
Pas forcément. Les 6 millions de gens qui sont touchés par cirrhose NASH ne sont pas tous en surpoids. Hein.
Ah, mais je pensais que c'était ça qui posait problème.
C'est un facteur aggravant,
ouais.
Mais ce n'est pas la cause principale.
Qu'est-ce que vous allez faire pour faire gaffe, justement, de ne pas franchir les 100 kilos? Vous l'avez écrit dans le livre, plus jamais j'aurai 3 chiffres
sur la balance.
Vous allez faire gaffe.
J'ai un sacré coup de fourchette, là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le docteur Claire Francos, qui s'est occupé de moi merveilleusement et avec beaucoup de positif, toujours, ce qui n'est pas le cas de tous les toubibs que j'ai croisés,
y compris pour autoriser la visite d'un chien.
Oui.
C'est elle.
Un de mes chiens est venu me voir à l'hôpital. Enfin, il n'est pas rentré dans l'hôpital, j'ai été à la,
À l'accueil.
Mmh. Mais enfin, les autres interdisaient.
Le chien n'avait rien à foutre de me voir d'ailleurs, parce qu'il y avait ma mère et il est amoureux de ma mère. Donc il était très content de voir ma mère.
Il avait surtout peur qu'on lui pique un rein, le clébard. Hein.
Déjà qu'il est castré, alors.
Ça va bien.
Donc c'est vous qui l'avez récupéré aussi, ça.
Ah, ouais.
Donc vous disiez, vous avez un très bon coup de fourchette en ce moment.
Oui, c'est totalement prévu.
D'accord.
Elle m'a dit, il y a beaucoup de greffés qui retrouvent le poids qu'ils avaient avant.
Aïe.
J'ai dit, non, ça, c'est pas possible.
Ouais. Ouais.
Parce que je devais faire à peu près 130 kilos au mois d'avril dernier. Je suis tombé à 88, là, c'était pas assez, clairement.
Est-ce qu'il y a un diététicien qui vous conseille, qui vous suit?
Non. J'ai le droit de manger absolument de tout. La seule chose auquel j'ai pas droit.
Pour ne pas grossir, justement.
La seule chose auquel j'ai pas droit, c'est le jus de pamplemousse.
Oh. Ah oui, parce que ça vient annihiler les effets du médicament.
Elle est forte.
Elle a lu.
Elle travaille, elle a lu le livre.
Pour une fois que c'est pas une connerie.
Voici la bande originale de Pierre Ménez. On se retrouve plongé.
Oh là, ça va être terrible.
En 1977, Pierre Ménez, écoutez.
Génial.
Non.
Je crois qu'Imagination, c'est sorti après 77. Mais peu importe, en tout cas, cette musique-là...
Il avait avant, lui.
Il avait en import. À l'époque, c'était en import. Justin Legion, Imagination. Vous assistez à votre premier match en 77 au Parc des Princes. C'était PSG-Bastia. Vous l'avez encore en tête. C'est de ce jour-là où vous êtes devenu amoureux du PSG?
Non, c'est venu un petit peu plus... Un petit peu plus tard.
Comme la passion du foot, c'est venu tardivement aussi dans votre vie.
C'est venu avec Saint-Etienne en 75-76, avec Rocheteau. La finale de Glasgow, Rocheteau.
La finale de Glasgow, non, c'est pas un bon souvenir. Kiev est un meilleur souvenir.
Oui, mais bon, bah, c'était deux mois
l'épopée,
avant.
Ouais, c'est ça.
La
fameuse épopée. Dans la musique, à quelle place d'ailleurs dans votre vie? Vous écoutez quel genre de musique?
J'écoute pas beaucoup de musique, c'est vrai, j'ai des goûts de chiottes.
Non, c'est bien Imagination.
Ouais, non, mais toi t'aimes tout, alors évidemment.
Non, j'aime pas tout. Non, il y a la bonne et la mauvaise musique. Ouais.
Non, il y a celle que t'aimes et celle que t'aimes
c'est
pas.
C'est ça aussi.
Je suis obligée de le dire, c'est j'ai l'impression.
Ça me fait mal, mais je crois qu'elle a raison.
Encore une fois, hélas.
J'ai vraiment des goûts de chiottes en musique. Ouais.
Bon,
mais c'est pas. J'ai pas d'écoute. J'écoute pas de musique sur mon téléphone. Je mets pas de musique en rentrant chez moi.
En travaillant, ni rien.
Non. Je mets la télé.
Pour regarder le foot.
Non, pas forcément. Non, je peux m'affuser.
Non, sais, pour regarder. Quand la première émission de télé que vous avez voulu voir à l'hôpital, c'est ou en rentrant à la maison, Objectif.
Oui.
Top Chef. Ouais. Le lendemain, le jour où je me suis réveillé.
La cuisine.
Un grand malade. En plus, c'est pile en face. Vous n'oubliez pas les paroles. C'est un grand malade.
Ouais, mais alors autant j'adore ton jeu le midi, autant n'oubliez pas les paroles, ça me gonfle.
C'est vrai.
C'est de la musique.
Ça me gonfle parce que.
Et tu bloques ses paroles.
Et je bloque ses paroles. Ouais, je le fais souvent. Mais non, parce que je suis nul à ça.
Ah, parce que tu chantes pas, d'accord.
Si, je chante pas trop mal, mais je me souviens jamais des paroles, j'écorche tous les mots. Top Chef, c'est
fascinant. Voir de la bouffe alors qu'on se fait opérer du foie et du rein, c'est une vanne.
N'oubliez pas les casseroles.
c'est de la bouffe de haut niveau, quoi. Enfin, j'ai voulu le voir, je l'ai pas vu, parce qu'en fait, après, ça a duré 12 heures la plaisanterie quand même, donc j'ai dormi pendant une semaine quasiment. Hein.
Pour récupérer. Ouais. 1983, Pierre Ménez, écoutez. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
C'est une chanson
qui évoque quoi pour vous?
Qui évoque la mort.
Carrément.
Le jour où ma grand-mère est morte. Ben, c'était le moment où la chanson était sortie, en 79. Ouais. Et mon père est mort en 90, et le jour de la mort de mon père, j'ai encore entendu cette chanson. Donc je déteste cette
chanson.
C'est une bonne idée de la passer. Hein.
C'est lui qui l'a choisi. Écoute, je
vous trouve tout pâle, Nagui.
On les avait prévenus, les gamins, qu'on allait se faire chier. Donc
Vous entrez comme pigiste à France Football par un piston de l'ami de maman qui connaît le DRH. Enfin bon, bref, vous y rentrez. Le plus dur, c'est peut-être d'y rester et de prouver que l'on sait écrire et qu'on sait s'occuper et faire ce métier. Vous avez rejoint l'équipe en 1984. Vous êtes resté super longtemps, pratiquement 20 ans. Ouais.
21 ans.
21 ans à l'équipe.
Ouais. Ouais, je suis entré à 21 ans, je suis parti à 42.
Mais pourquoi vous en êtes parti? Parce que vous pourriez peut-être finir patron ou rédacteur en chef de l'équipe, non? Il y a une progression assez régulière à l'équipe.
Oui, à l'ancienneté, oui. Non, c'est chiant, parce que quand tu deviens chef, tu te déplaces plus, tu vois plus de matchs. Tu corriges les papiers de mecs qui connaissent moins bien le foot que toi. Donc ça m'a jamais tenté. Non, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de travailler pour un club, donc j'ai signé à Reims, où ça s'est très très mal passé.
Ouais.
Mais j'ai commencé à Reims le 1er juillet. Et le 11 juillet, Jérôme Bureau m'appelait pour me proposer de faire 100% foot avec Estelle.
Sur M6.
Sur M6. Et puis, j'ai fait 4 ans M6. Et,
Alors, Estelle, d'ailleurs, pour parler d'Estelle Denis, vous racontez dans le livre que vous n'aimiez pas Raymond Domenech, ce qui rejoint une grande majorité des Français. Et vous avez dit.
Oh non, c'est pas juste.
Mais si, c'est vrai. Non, mais j'invente rien.
C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'aimais pas ce qu'il faisait.
Domenech, tu fais un sondage sur le...
Ah, moi, je te dis que c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? On gagne, on perd.
On sent la spécialiste.
Non, je connais toutes les affaires liées au foot, mais à un moment, t'as envie de dire, c'est un mec qui arrive là à une fond. Enfin, c'est facile de tirer sur le mec qui est responsable.
S'il n'est pas responsable, peut-être, mais. Une grande majorité des Français a un mauvais souvenir de Domenech.
Il n'a pas, dégagé des bonnes vibes quand il faisait les conférences de presse dans la manière. Peut-être que le mot est un peu
exagéré.
Fort.
Pardon.
Ouais. N'aime pas beaucoup.
Voilà.
Sa gestion de l'équipe de France n'aime pas beaucoup la grève des joueurs de foot à Nice-Nard.
Les Français veulent qu'ils crèvent. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu.
Aucune demi-mesure.
Un chat. Merde.
Par contre,
et vous le dites, Estelle, ça vous dit.
C'est faux. C'est faux de dire que j'aime pas Domenech. J'aime bien Domenech.
C'est ce que vous lui avez dit, Estelle. J'ai un problème.
J'avais un problème avec ce qu'il a fait sa première année comme sélectionneur.
Voilà.
S'attaquer à Pires, jouer en 3-5-2, enfin, il y a des tas de choses que j'ai détestées. Et puis, donc, quand Bureau...
Et tout ça était avant Nice-Nard, en plus.
Voilà. Et Jérôme Bureau me contacte et me dit est-ce que tu as un problème avec tes nouvelles fonctions à Reims pour faire une émission de télé? J'ai dit non. Il me dit, bon, voilà, c'est une émission de foot, sera présentée par Estelle Denis. Estelle Denis, c'est la compagne de Domenech. Avec ce que je lui ai mis dans la gueule toute l'année dans l'équipe.
Sur le papier, ça va être difficile.
Ça va être un petit peu compliqué. Et puis, j'ai parlé avec Estelle au téléphone, qui m'a dit qu'elle s'en foutait complètement.
Elle fait la part des choses entre sa vie privée et sa vie
professionnelle. Et puis, elle voulait même que je l'attaque sur le plateau.
Et là aujourd'hui,
faire chier Estelle, je lui disais au maquillage avant l'émission, je suis fatigué, je vais pas tailler aujourd'hui. Attends, je te préviens.
Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Estelle et Domenech?
Excellent. Estelle, c'est ma sœur. Hein. Elle a été plus que présente durant toute cette période. Elle vient m'amener des croissants. Oui, des croissants.
C'est pas bien. Il y a plein de beurre et plein de calories dans un croissant.
Mais tu vas arrêter de me faire chier.
mais je veux vous aider à ne pas dépasser les 100 kilos, écoutez. On a demandé à Aurélie Matignon, merci Aurélie, de venir à ce micro qui sera ouvert dans quelques petites secondes, pour nous parler, parce que tu es responsable du pôle accompagnement des aidants. Déjà, quelle est la définition des aidants?
Alors, quand on parle d'aidants, on parle de 8 millions de personnes en France qui accompagnent au quotidien un proche, quelle que soit sa situation de malade ou de handicap, au quotidien.
Que ce soit un membre de la famille ou que ce soit un ami?
Tout à fait, il y a quasiment 20% des aidants qui ne sont pas des membres de la famille.
De l'importance de ces personnes, on le voit dans le livre de Pierre Ménès, sans l'entourage, l'histoire n'aurait pas été la même, sans cette histoire d'amour avec Mélissa, sans sa maman. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des personnes aussi attentionnées près de soi.
Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui ressort tout au long du livre, hein, le soutien, l'amour, la présence de Mélissa, de votre maman aussi, qui sont là 24 heures sur 24. Vous parlez de pêche d'enfer, de solidarité, de non-jugement aussi, ce qui est vraiment important d'avoir quelqu'un.
La maman pourrait faire des reproches en disant à cause du surpoids, tu as vu, je t'avais prévenu. Elle vous disait que vous mangiez trop, que vous preniez trop de poids.
Ah oui,
elle vous a fait aucun reproche après.
Elle m'a même sauvagement gonflé avec ça, oui.
Avant. Mais elle n'a fait aucune référence, aucune allusion à partir du moment où vous avez été malade, en disant, tu vois, je te l'avais dit. Cette fameuse phrase que l'on risque d'entendre.
Que tu entends assez souvent.
Quel est le rôle de l'association, de votre association?
Alors, l'Association française des aidants, c'est avant tout une association militante qui a pour vocation de porter la parole de ces millions de personnes qui contribuent à une certaine forme de solidarité en France. Même s'ils sont encore très peu reconnus, les aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans ce rôle qui est le leur. Mais voilà, notre objectif, c'est de les rendre plus visibles, pas pour faire d'eux ni des victimes ni des héros, mais juste leur permettre de trouver leur place auprès de leurs proches.
J'ai une question à vous poser. Quand on voit ce qu'a fait Mélissa pour Pierre dans le livre, c'est vraiment, elle l'emmène en voiture.
Elle a fait taxi, elle a fait ambulancier.
Donc ça veut dire qu'elle s'occupe
elle
de tout.
Elle a fait taxi, ça faisait...
Très peu de temps qu'elle avait son permis.
Un an.
Ouais, c'est ça, elle a eu une bonne idée de passer son permis.
Elle a un peu raflé le 4x4, mais bon, il n'y avait pas à l'engueuler non plus.
Il y a eu une période où il était sur un fauteuil roulant et la difficulté de vous aider à vous installer dans la voiture, de plier le fauteuil, de le porter, de
le mettre... Le fauteuil qui ne rentrait pas dans l'ascenseur.
Hein. Voilà, donc tout ça, c'est... Donc,
question technique, ça veut dire que tout ce qu'elle a fait pour Pierre, si par exemple, est-ce qu'il n'y a pas moyen de payer les aidants qui sont là au service? Je ne dis pas que c'est le cas de Mélissa qui réclame un salaire, pas du tout, mais je me pose la question, est-ce qu'on peut employer un de ses proches? Comme on le voit par exemple au Parlement, pour nos députés qui emploient leur compagne. Oui. Non, par exemple, non, mais je fais un parallèle qui est intéressant, c'est-à-dire que pour un parlementaire, on a le droit d'employer, et c'est légal pour l'instant, quoi qu'on en pense, d'un point de vue éthique et moral, on peut employer l'un de ses proches pour nous donner un coup de main, parce qu'il est à côté de nous.
C'est légal qu'il emploie, ce qui n'est pas légal, c'est qu'elle ne travaille pas.
Ça, c'est autre chose, mais moi, je ne parle pas de M. Fillon et des présumées accusations qui pèsent sur M. Fillon, on va rester très très prudent. Moi, je parle du parlementaire standard qui peut employer sa femme, qui va l'assister, qui va lui écrire son courrier, qui va le représenter et qui sera payé. Et je me demandais si en France, le proche qui est le mieux capable de comprendre devant qui on veut bien se mettre nu et être dans des situations...
Faire la toilette.
Limite qui relève de l'humiliation parfois. Est-ce que je peux employer mon conjoint, mon père ou ma mère pour m'aider?
Alors, il y a certaines situations effectivement pour lesquelles c'est possible. Après, c'est aussi une question de volonté et de choix. On a une certaine forme de
pression
sociale.
C'est-à-dire certaines situations où c'est possible, ça veut dire que certaines, c'est pas possible?
En fait, ça dépend beaucoup des plans d'aide qui sont mis en place par les conseils départementaux, les maisons départementales des personnes handicapées. Après, nous, à l'association, on se pose la question du choix pour l'aidant de pouvoir avoir ce rôle-là. Quand on accompagne un proche au quotidien, d'avoir un lien financier avec son proche, ça relève presque d'une fonction professionnelle.
Il y a une allocation pour ça.
Une allocation, voilà. Donc, l'idéal, c'est que les personnes malades soient suffisamment prises en charge par des professionnels de santé qui sont là.
Mais si je veux, moi, si je veux assister mon conjoint, j'ai le droit.
L'allocation personnalisée d'autonomie.
Tout à fait.
Ça, qui paye ?
Alors ça, c'est le conseil départemental pour les personnes de plus de 60 ans, avec différents critères.
Uniquement.
Après, il y a des aides pour les personnes en situation de handicap également.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est un combat administratif incroyable, il faut bien le préciser. Et sans rentrer dans les détails, il faut savoir que des aidants peuvent effectivement être rémunérés pour aider, mais il faut savoir que le taux horaire, il est grotesque. Il est de 3,14 euros ou 54 de l'heure.
Non.
Mais si, mais bien sûr.
Pour ça, je voulais faire
savoir,
le parallèle avec le
quand
Parlement
vous êtes parent
français.
Et que vous aidez un enfant handicapé à demeure, ce qui est un travail considérable.
Mais certains laissent tomber leur boulot, d'ailleurs, pour pouvoir le faire.
Voilà, laissent tomber leur boulot, alors qu'ils sont diplômés, etc. L'aide est quand même très, très minime, même si... Elle peut être accordée, mais là encore, elle est accordée au prix souvent d'un combat administratif très lourd et des gens qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas leurs droits et qui n'ont pas l'énergie ou les moyens, ils laissent tomber. Donc ici, c'est un problème très très sérieux. Quoi.
De votre
une petite
point
parenthèse
vue,
comme ça.
Mais importante. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut changer à notre système médical ou administratif, en tout cas, pour que ces aidants aient une vraie place, une vraie reconnaissance.
Pour nous, la reconnaissance...
Et que ce soit avant 60 ans ou après 60 ans, pardon. Mais, parce que l'aide n'est pas que physique, elle est aussi psychologique, elle est dans l'accompagnement dans tous les sens du terme.
La première des choses, c'est vraiment que les personnes malades soient suffisamment accompagnées et que le proche puisse rester l'épouse, la mère, pour tenir la main de son proche, être là, faire des sorties, avoir des moments conviviaux, et puis laisser tout ce qui est un peu plus technique à des professionnels et que chacun puisse bien trouver sa juste place, que ce soit les professionnels.
Mais idéalement, il faudrait que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, pris en charge par des mutuelles, qu'il y ait un statut de l'aidant. Est-ce qu'il existe ce statut?
Alors, il y a des avancées en termes de statut, sur notamment des droits au répit, où on propose à des aidants de pouvoir partir une semaine en vacances ou d'imaginer des solutions d'hébergement temporaire pour les personnes malades. C'est vrai qu'il y a une telle multiplicité aussi de maladies que voilà, les solutions sont différentes. Mais la première des choses serait qu'il y ait suffisamment d'aide technique, financière et professionnelle pour les personnes malades.
Mais je vois, moi, Mélissa, elle est très mal à l'aise par rapport à...
Pourquoi ?
Par rapport à tout ce que je raconte sur elle, elle trouve que ce qu'elle a fait, c'est normal et que...
C'est normal parce qu'elle a fait par amour, mais et parce que pardon.
Mais non, alors les gens me disent oui. Pierre, aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je dis, mais quand le pire, il est 10 fois pire que le pire que tu peux imaginer, il faut quand même.
Vous aviez
force morale et la force physique de le faire.
Oui, et vous aviez peut-être les moyens de mettre entre parenthèses une activité professionnelle et elle aussi pour se consacrer totalement à ça, ce qui n'est pas le cas.
Elle travaille pas. Hein.
Il y a des parents que je rencontre sur le Téléthon qui sont dont la vie est totalement bouleversée dès l'instant où un enfant devient malade et ils ne consacrent leur vie uniquement à aider, accompagner et à soutenir leur enfant et ils sont obligés de laisser tomber leur boulot. Et là, malheureusement, j'ai pas le sentiment que la loi, qui est pourtant extrêmement bien faite en termes de maladie, de santé, d'accompagnement, soit prête.
Il vaut mieux se présenter au législateur.
À accepter ça.
Depuis le début de l'année, effectivement, il y a une loi qui a été votée pour permettre aux aidants de poser des congés pour s'occuper d'un proche, mais ça reste des congés sans solde. Mmh. On a aussi la possibilité
donc,
de poser
pas
des
donc
RTT.
Pas d'argent. Mais oui, mais tout ça, c'est oui.
Mais voilà, c'est un peu compliqué. Ce qu'on sait, c'est que les aidants laissent bien souvent de côté leur propre santé, ce que vous disiez, hein, la santé physique, mais aussi le lien social, on prend plus le temps d'aller voir ses amis, une surconsommation de médicaments, du stress, des douleurs physiques.
Donc cette association française des aidants est faite pour que les aidants soient justement soutenus, représentés auprès des autorités ou du ministère de la Santé ou conseillers.
Tout à fait.
Pour pouvoir
accompagner et puis voilà, donc ça c'est notre travail militant et sur le terrain on organise des actions, des réponses pour les aidants, notamment des cafés des aidants qui sont un petit peu partout en France, des ateliers autour de la santé, de la formation des aidants. Et on essaye aussi de former les professionnels sur la prise en compte des aidants et des familles dans leur pratique. Vous parliez du lien avec les médecins qui n'ont pas forcément toujours cette écoute hein, pour les proches qui est vraiment importante.
Merci beaucoup Aurélie Matignon d'être venue. Merci pour ce que vous faites, Association Française des Aidants. Daniel, on le voit avec l'expérience vécue par Pierre Ménez et ce que vient de nous raconter Aurélie, le rôle des proches est absolument essentiel. Il faut saluer d'ailleurs le travail de cette association, des familles qui aident, ou des amis qui aident le passage de ce douloureux passage d'ailleurs quand il est médical.
Oh, le petit fumier!
Qu'est-ce que j'ai dit?
Il est bon le petit pharaon. Je sais plus quoi dire. Bravo, génial, divin. Non, j'aime mieux, je dirais plutôt cucu, concon, crado, à chier. Une nouvelle fois, vous n'avez pas pu résister au chapitre du don d'organes. Il y en a qui donnent leur corps à la science. Vous vous offrez votre cerveau au vide. Ce matin, n'échappe pas à la règle, malheureusement, car que ce soit face à la maladie ou face à toute autre situation dramatique, les proches ne servent à rien. Pire, ce sont nos ennemis. La preuve, en un exemple, je me souviendrai toute ma vie de ce funeste jour d'été 2014. Je me prélassais une terrasse de café après une journée de production de 12 chroniques, toutes plus brillantes les unes que les autres, ce que j'appelle la routine. Il était 16h22 quand mon téléphone a sonné, c'était notre directrice, Laurence Bloch, je l'entends encore. « Salut Jean-Claude, c'est Laurence Bloch à l'appareil. »« Bonjour Laurence, vous allez bien ?»« Alors déjà, c'est pas bonjour Laurence, c'est bonjour Madame la directrice. » Bon, puisqu'on est aux précisions, moi c'est pas Jean-Claude, c'est Daniel. Ça fait 38 ans que je travaille à France Inter. « Écoute-moi du con, si tu veux voir la 39e année, tu la fermes et tu m'écoutes. » Avec plaisir.
Wow.
À propos de plaisir, justement, je voulais juste annoncer que pour cette rentrée 2014, c'est Nagui qui présentera le 11h-12h30. Je compte sur toi pour le rendre intelligent. Et elle raccroche. Et là, je peux vous dire que le monde s'est ouvert sous mes pieds. J'ai commencé à tourner de l'œil, j'ai vomi. Je crois même que je me suis fait pipi dessus. Émotionnellement, je me suis vu quitter la planète. Forcément, à ce moment-là, j'ai appelé le seul de mes proches capable de m'épauler, de me donner des conseils suite à cette nouvelle terrifiante. J'ai appelé Stéphane Bern, et là je peux vous dire que j'ai compris ce que c'était aussi que la nocivité des proches en cas de drame. Quand j'ai dit à Stéphane, tu sais quoi mon Fafan, la saison prochaine pour animer le 11h30, l'émission culturo-divertissante, ils ont proposé Nagui. La réponse de Stéphane fut « Ah, 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 ah,
N'importe quoi. Merci.
La bande originale. La vie sur France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Gadon-Médaldi.
Bonjour à tous.
Léa Moubise.
Tout simplement.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou. Bravo. Et bravo, notre invité Pierre Mellet.
Ouais. Bravo.
Pierre qui retrouve les studios ce week-end, dimanche soir, à, je sais plus, c'est
19h10.
19h10, voilà, pour être précis. Le Canal Football Club, ça vous a démangé, c'est peut-être même ce qui vous a fait tenir le plus à lire le livre. Il y a ce côté, j'ai envie d'y retourner, ça me manque. On sent que
j'ai pas regardé l'émission pendant 6 mois. C'était insupportable de voir ça.
Si, une fois, vous avez d'ailleurs tweeté que c'était avec tristesse que vous la regardiez.
Ouais, mais j'ai menti, je l'ai pas regardé.
D'accord.
C'était une tristesse de voir que l'émission
existait sans vous.
Existait sans moi, ouais. Mais le débrief après le match, je regardais.
Et ça vous démangeait ou ça vous...
C'est-à-dire que quand j'ai su que j'allais être greffé, j'ai su que j'allais être absent pendant 6 mois. Là, ça fera presque 7.
Ouais, vous deviez reprendre le 15 mars. Dans le livre, vous dites je serai à l'antenne le 15 mars.
Ouais. Et le 15 mars, comme je suis tombé chez le kiné, je me suis déchiré les adducteurs, j'avais du mal à marcher. Là, ça fait quoi, 15 jours que je marche sans béquille. Même si le pied droit fonctionne pas encore super bien, parce que j'ai un nerf qui s'est bloqué pendant l'opération, donc j'arrive pas à relever le pied droit, donc ce qui me donne cette démarche de flamant rose.
Comme Evra, quoi.
Hein?
Le pied droit, là.
Evra, c'est le pied gauche.
Arrêtez!
Mais c'est gratuit, c'est gratuit.
Ouais, mais c'est tellement bon.
Mais c'est bon, c'est
et
ça.
Et je me suis toujours dit que ma vraie résurrection, ce serait de revenir sur le plateau, quoi. Pas parce que je vais passer à la télé, ça, je m'en fous complètement, mais parce que je vais retourner à la vie active, je vais retrouver ma place. Et
du
ça,
coup, il y a une
important.
Petite appréhension ou pas?
Non.
Aucune.
Non, au niveau de l'émission, il n'y a pas d'appréhension.
Mais de retrouver tout le monde.
J'ai une appréhension au niveau émotionnel, parce que j'ai bloqué 20 places dans le public. Il y aura ma mère, mon fils.
Ah oui, d'accord. Ok. Il y a la famille, le clan.
Mon homme d'affaires, mon médecin, mes kinés. Il y aura du monde, oui.
Vous les invitez pour leur dire merci?
Alors, il y en a que j'ai invités pour dire merci, et puis il y en a qui m'ont demandé à venir.
En tout cas, ça pourrait être presque le titre de ce livre. Merci. Merci à votre femme, à votre maman qui vous ont soutenu. Merci à ceux qui ont fait ce don d'organes, parce que on a parlé de l'importance du don d'organes, du danger dans lequel vous étiez, de l'imminence dans laquelle vous trouviez. En plus, vous deviez avoir le don du foie et du rein venant d'un même donateur. Ce qui rajoutait encore une difficulté supplémentaire à ces greffes.
Ça donne une difficulté pour trouver un donneur, oui.
Et l'opération ne pouvait pas avoir lieu, parce qu'il y a différents hôpitaux qui sont spécialisés dans les greffes. Voilà, il y a l'hôpital qui opère le foie et il y a l'hôpital qui opère le rein. C'est pas le même, donc il fallait qu'il y en ait un qui joue à l'extérieur.
Voilà, et c'est toujours le foie, parce que l'espérance de vie du foie est plus courte que celle du rein. Donc on fait toujours ça dans l'hôpital du foie.
D'abord le foie et après...
D'abord le foie, le foie, ça met à peu près 6 heures, l'opération, alors que le rein, c'est 1h30.
D'accord. Mais le foie dure plus longtemps, en tout cas...
Docteur Franco, je m'a dit que mon foie m'enterrerait.
Donc vous pourrez donner votre foie à quelqu'un d'autre.
C'est ce que j'allais dire. Et vous allez donner vos organes?
Ah bah oui.
Un musulman?
Hein? On peut mettre un alinéa, on peut mettre une clause.
Ce serait dommage, mais bon, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Mais je me demandais justement, quand on parlait de la forme, là vous êtes en train de reprendre, de retravailler votre corps, j'imagine que musculairement ça doit être beaucoup de travail.
Chez
le kiné, je ne sais pas combien de fois par semaine, mais ça doit
être tous les jours.
Tous les jours.
Là, comme je suis en pleine promo, j'y vais
vous
pas.
Vous séchez un peu.
Je sèche un peu, oui, mais bon, je marche. Donc, moi, marcher, c'est la meilleure des kinés. Hein.
Ouais. Et les médecins vous ont demandé justement de faire attention à votre alimentation, à prendre soin de vous, de vos organes, de leur donner la meilleure chance d'être bonne posture.
On ne m'a absolument rien dit en termes d'alimentation.
D'accord.
On m'a même dit qu'il fallait que je remange.
Il n'y a que moi qui le souffle en termes d'alimentation.
Il fallait que je mange gras, il fallait que je mange riche, il fallait que je reprenne. Parce que.
Éviter les frites et la cuisson au beurre, peut-être, non?
Les frites, pourquoi?
C'est tellement bon.
Parce que c'est un peu gras, quoi, généralement.
Mais j'ai besoin de faire des protéines, parce qu'en fait, mon foie ne gardait plus aucune protéine, donc je fondais à vue d'œil. Et là, il faut que je reprenne des protéines. Et le fait de manger contribue autant à me remuscler que les exercices chez le kiné.
Alors je dis le merci pour la famille, merci pour évidemment la famille de celui qui a donné ses organes, merci aux médecins qui sont très présents et le corps médical est très présent et vous le confirmez en les invitant encore dimanche soir au CCF. Il y a des merci aussi aux amis qui vous ont entouré. C'est surtout ça moi que je ressens en lisant votre livre, c'est une vraie reconnaissance qui a l'air par moment, par page, de vous surprendre, agréablement.
Comme Albert l'a dit, j'ai quand même la réputation d'être un gros pourri, donc je pensais pas...
C'est bien dit, là.
Je pensais pas véhiculer autant d'amour. Je pensais pas, même Twitter, qui est quand même une jungle, sur 100 messages que je reçois, j'en ai 98 adorables, je pensais pas faire autant l'unanimité à ce point-là, avoir autant de soutien du milieu du foot, du milieu de la télé. Ouais.
Bon, enfin, ça va changer dès l'instant. Vous allez reprendre les mauvaises notes et les mauvais commentaires.
Voilà, dès que je vais tailler un club, de toute façon, il n'y a rien de moins objectif qu'un supporter. Donc, mais ça, je l'ai intégré depuis longtemps.
Pierre Ménès signe deuxième mi-temps. Ce témoignage est publié chez Kero. Voici le témoignage de Daniel Morin maintenant.
Nom de Dieu. Je vais vous dire une chose incroyable, Nagui.
Dites-moi.
C'est fou. Je suis de bonne humeur.
Enfin.
Ça se voit pas.
Pas parce qu'on est vendredi et que demain, c'est le week-end. Non, je m'en fous du week-end. Vous le savez, j'ai une vie de merde et le week-end, je croise que des cons. Des cons qui se disent probablement la même chose quand ils me croisent. Alors que, non, aujourd'hui, je suis content, très content de rencontrer Pierre Ménès. Déjà parce que des commentateurs journalistes sportifs qui ne sont pas des robinets d'eau tiède, ça ne court pas les plateaux. Et parce que j'aime bien l'homme. Homme que je ne connais pas, mais dont j'apprécie le peu que j'aperçois. Et puis aussi parce que j'aime le foot. Oui, j'aime ça. Eh, hey, je suis sûr que vous aimez ça aussi, le foot, Maréchal.
Affirmatif.
J'en étais sûr.
Ah, enfin, j'aimais ça avant.
Aujourd'hui ?
Aujourd'hui, le foot, c'est devenu un sport de lavette. Un sport de chialeuse. Un sport de petite tapette.
Mais ça va pas.
Ah, écoutez, il a le droit de s'exprimer. Mais comment ça ?
Et que je me roule par terre, et que je me recoiffe sur le terrain, et que je passe un scanner quand j'ai un rhume. Non, c'est plus des sportifs, c'est des esthéticiennes.
Et en quoi c'était mieux avant, Maréchal ?
Avant, les gars... Ils en avaient dans le froc, Morin.
Vous avez un exemple ?
Affirmatif. Je me souviens, c'était en 1954, en Indo. J'étais prisonnier des Viettes, dans le camp de Fouicouille. Là-bas, il y avait un légionnaire prénommé Jean-Claude, une boule de muscles et de haine. Ancien footballeur, il continuait de s'entraîner dans le camp.
Oui, ok, je comprends.
La ferme, Morin, j'ai pas fini mon histoire. Comme on n'avait pas de ballon, Jean-Claude s'en était taillé un, dans une pierre. Un ballon en pierre de 10 kilos, dans lequel il tapait nu, pieds nus, pardon.
La petite révélateur.
Il faisait chaud, donc,
oui, c'est ça,
et pieds nus, pendant des heures. Il avait les pieds en sang. Il a même chopé la gangrène. Au bout de 3 mois, on l'avait amputé des 2 jambes, au niveau des genoux. Il faisait la taille de Pujadas, pour vous donner une idée. Non. Mais il continuait et revenait les rotules en sang. 3 mois plus tard, rebelote, amputation, plus de cuisses. Là, il pouvait plus taper dans le ballon.
Ah mince, en tout cas, jolie
histoire. J'ai pas fini. Oh là là. Comme c'était un passionné, il m'a dit « Toi, aidez-moi, envoyez ballon pierre et moi faire des têtes ». Dès le premier essai, ce fut la catastrophe. La pierre lui enfonçait la tête jusqu'au cou.
Ah, du coup, il a arrêté.
Négatif. Il s'est planté un tire-bouchon dans la tête. Il m'a dit « Tire !» Et je lui ai sorti la tête du cou.
Mais il devait te sonner.
Négatif. Il a continué. Au deuxième coup de tête, son crâne s'est fendu en deux, comme une noix de coco.
Ah, ben là, il a arrêté.
Négatif. Il s'est fait recoller la tête avec du scotch et il a continué. Au troisième coup de tête, ses yeux sont sortis de sa tête.
Ah, j'imagine qu'il a continué.
Ah non, vous êtes con, quoi. On peut pas jouer si on voit rien.
Ah, quand même.
Tout ça pour vous dire, Morin, qu'à l'époque, les footballeurs, c'était pas des chialeuses et encore moins des lopettes.
Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Jean-Claude ?
Après la guerre, il s'est installé dans le Nord. Mais avec sa gueule de travers, il faisait peur aux gens. Il a vécu caché.
Le pauvre.
Des fois, je pense à lui. Pauvre Jean-Claude.
Jean-Claude comment ?
Jean-Claude Ribéry. Non.
Merci, Maréchal, pour cette histoire. Bon week-end à lundi.
Merci,
Albert. Merci, les grands.
D'ailleurs, de tout ce que vous avez pu voir, on a compris que le PSG-Barça, ça vous avait énervé. Enfin, le match retour Barça-PSG, vous avez énervé. Ce qui vous a énervé, c'est la manière dont ils ont joué, le mental, la suffisance avec laquelle ils ont joué. Ils croyaient que c'était fait, c'était plié.
Ah non, j'ai absolument pas vu de suffisance. J'ai vu de l'insuffisance. J'ai vu.
Non, je parlais de suffisance en termes de prétention, c'est-à-dire qu'ils ont raté leur première mi-temps, croyant que c'était fait, quoi. Que le match était
fini. Ils sont arrivés sur le terrain avec le short sur les chevilles, surtout, quoi. Et qu'ils avaient, ils étaient fous de trouille. Alors que quand on a 4 buts d'avance, on n'a pas la trouille, quand même. Ils ont joué incroyablement bas. Après, je regrette un petit peu, d'ailleurs, de pas avoir suffisamment insisté au moment où j'ai fait mes textes. L'arbitrage, c'est pas possible.
Il devait y avoir carton rouge et expulsion.
Le premier but de Suarez est hors jeu déjà. Ouais. Donc c'est le premier but que tu prends au bout de 2 minutes qui te met tout de suite dans une pression insupportable. Le but est pas valable. Il y a carton rouge sur Piqué. Il y a penalty sur Di Maria. Il y a pas penalty sur Suarez. Ça fait beaucoup quand même. C'est-à-dire que même en étant aussi mauvais qu'ils ont été, il devait passer.
Et alors c'est marrant parce que Leïla a une analyse différente.
Absolument, mais je pense que je vais la réserver pour plus tard.
Et l'arbitrage vidéo qui a été utilisé pour la première fois face au match France-Espagne, ouais, vous souhaiteriez qu'il soit généralisé?
Moi, je juge sur pièce. Il y a eu 2 buts, un but non valable qui a été refusé, un but valable qui a été accordé. Donc, il n'y a pas de polémique.
Allons-y.
Ça me paraît.
On n'a pas tant perdu de temps que ça à vérifier.
Mais on le fait
dans tous les sports.
C'est les combats d'arrière-garde. Puis alors, j'aime bien dire oui, non, mais ça va enlever de l'émotion au foot. Enfin, va dire ça au PSG que ça leur enlève de l'émotion.
C'est Gamero. Non, c'est
ça, on n'enlève pas au rugby, donc.
Gamero a expliqué que quand on marque un but, on est dans la joie, on fait le tour du terrain, on enlève son maillot, on prend un carton, on est content, on a marqué le but. Et de s'arrêter pour vérifier si on a ou pas le but, ça enlèverait quelque chose de naturel au football et que c'était.
Il peut courir
dommageable.
Quand même et puis on attend la réponse. Oui, hein. Il court et puis après on lui dit.
Très bien.
Au rugby, tu cours aussi, puis tu t'attends, quoi.
Non, mais justement, au rugby, au tennis, enfin, tous les sports.
Et puis quand c'est litigieux,
de haut niveau.
De toute façon, quand c'est litigieux, il y a toujours un moment de flottement. De toute façon, quoi.
Mais dis-le à Gamero, je suis à 10 000% pour la vidéo. 10 000% pour la vidéo.
Pourquoi t'emmerdes Nagui après le Gamero?
Appelle-le. Il a son 0-6. Vas-y.
Attention, Guillermo, il a joué au foot à très haut niveau.
Très haut niveau.
En Belgique.
Grand footballeur.
Il ne le dit pas, il est modeste depuis tout à l'heure.
T'as joué à Anderlecht, c'est vrai?
Oui, absolument.
Attention,
j'ai un corps en bois, donc malheureusement.
Non, c'est un très bon joueur de foot.
Tu joues à quel poste à Anderlecht?
Milieu offensif.
Ah ouais.
Numéro 10.
Ah ouais.
Platini, c'est ça?
10. Ouais, plutôt, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais.
On l'appelait le Zidane de Molenbeek.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi, toujours
Pierre Ménès. Je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Pierre.
J'essaie vraiment de marquer les esprits, les gens, avec un regard fort, souvent perçant, des regards clairs, souvent, pour aller le plus possible dans l'émotion. Là, c'est un miroir où chacun y voit sa propre vie.
C'est la voix d'un artiste que vous connaissez, c'est le jeune peintre Rémy Planche.
Oui.
Et vous l'évoquez dans le livre, je ne connaissais pas, ça m'a donné l'occasion de découvrir son travail. Vous êtes complètement fan, vous dites « J'adore Rémy Planche », un peintre originaire de Nantes, ultra réaliste. Vous avez acheté, je crois, l'un de ses portraits.
Oui, j'ai acheté un portrait d'un barbu.
Ah, alors, bon choix.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre-là et surtout de votre rapport à l'art? Parce qu'en fait, dans le bouquin, vous dites que voilà, vous avez une sorte de passion pour la photo, les tableaux, ce genre de
d'ouvrage. J'ai plus de place chez moi. Là. Alors, je suis très embêté parce
que
j'ai découvert un nouveau peintre strasbourgeois qui fait des peintures de hangars et du port de Bâle absolument magnifiques.
C'est votre ville, Strasbourg?
C'est la ville de mon meilleur ami, oui, Marc Keller. Et Rémy, je l'ai. C'est Mélissa qui est originaire de Nantes, qui a vu ça sur Nantes. Et puis, je l'ai contacté. Et puis, j'ai acheté un de ses tableaux. Alors, c'est des barbus. Il y a toujours l'impression. Alors, on a un peu l'impression qu'il est le mien. On a un peu l'impression qu'il a les yeux de Jeff Bridges. Alors que, on a l'impression qu'il prend des yeux d'un acteur pour les mettre sur un visage.
Encore une greffe d'organe.
Toujours la greffe.
Ouais. Ouais. Ça me poursuit. Ouais.
Et vous êtes, est-ce que vous faites conseiller justement parce que vous dites qu'il ne faut pas vous laisser place de la Bastille
C'est interdit. Si les gens qui se font interdire de casino, moi je me fais interdire du salon d'art moderne parce que sinon je reviens avec deux œuvres à chaque fois, quoi.
Et ça représente une grosse partie de votre budget,
ouais,
c'est ça?
Oui, c'est ça coûte cher, non?
Ouais, bah oui.
Bah après, t'essayes d'acheter des choses qui vont... C'est-à-dire que j'essaie de ne pas dépasser les 2000 euros sur une œuvre.
Ouais. Même, donc, Et vous faites conseiller vous pour savoir ce qui va grimper, ce qui est plutôt dans l'air du temps? Non, ah, vous le faites
pas,
vraiment
c'est
au coup
pas un
de
investissement,
cœur.
C'est fonction de la toile.
C'est vraiment,
c'est vraiment du coup de cœur perso.
C'est vraiment du coup de cœur perso, là.
Donc il va falloir faire de la place sur les murs.
Ouais, ou acheter plus grand.
Acheter plus grand, voilà, on poursuit avec un autre son.
Monsieur le Président, on me vire de l'usine, je suppose que vous allez me reprendre mon logement.
Qu'est-ce que vous faites?
Je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous enverrai mon slip et mes chaussettes par la poste. Madame la Présidente.
C'est un extrait de la bande-annonce de Coup de tête avec Patrick Devers, probablement l'un des rares très très bons films sur le foot. Je pense que je me méprends pas quand je dis ça. Je
Et sais à mort pas. L'arbitre.
À mort l'arbitre, d'accord. Vous avez écrit, vous, un scénario, Pierre Ménès, vous en parlez, parce que c'est justement un passage important dans votre convalescence, quelque part.
Deux même.
Oui, deux. Là, un premier, puis un deuxième que vous entamiez, où Mélissa vous poussait un petit peu à vous remettre à l'écriture. C'en est où?
J'en suis à la moitié, là. J'en suis à la moitié. Alors bon, c'est une comédie grinçante sur le milieu de la télé. Et bon, au début, j'avais pas tellement ni d'inspiration, ni très envie de grincer. Et là, ça commence à revenir un petit peu. Là, mon personnage est en train de péter les plombs, donc c'est un peu plus jouissif à écrire. Ouais.
Et vous avez déjà des idées pour incarner les personnages pour...
On a des souhaits, ouais, avec le producteur. Maintenant.
Producteur qui a produit également Première Étoile.
Oui, exactement.
Pierre Kruger, c'est ça?
Oh, c'était bien Première Étoile.
Pierre Kubel.
Kubel, pardon.
Et je finis par un
Lucien
cadeau.
Lucien Jean-Baptiste.
Lucien Jean-Baptiste,
ouais, qui prépare d'ailleurs la deuxième étoile.
Et je finis par un cadeau pour vous, Pierre Ménès. C'est Des Sports. C'est le premier magazine de sport à lire avec un marque-page. C'est une édition qui est assez incroyable. Alors, il y a une relecture de l'affaire Benzema, par exemple, au programme, signé Grégory Schneider. Il y a Des Femmes, Des Sports. Conversation avec Titouan Lamazou pour une bibliothèque idéale. Il y a tout un tas d'articles qui sont recensés avec le rapport entre littérature et sport. C'est une très très belle édition.
Mais pourquoi tu parles de marque-page? J'ai pas compris.
Parce que non, c'est le slogan de la revue, c'est dire que c'est le seul magazine à lire avec un marque-page parce que c'est comme un livre.
Ça se présente comme un livre.
Ça se présente comme un livre. C'est une très très belle.
J'ai pas compris le pitch.
Voilà, c'est très belle facture.
Merci. Je finis par avoir un cadeau quand même.
Mais il y a chacun un cadeau à la fin de cette émission. Ne vous inquiétez pas, c'est le principe.
Vous vous sentez pas privilégié non plus. C'est ce qu'elle vient de vous dire. C'est ce qu'elle vient de vous dire aussi.
Non, pas du tout. Et c'est aux éditions du Sous-Sol. Les éditions du Sous-Sol, pour un clin d'œil, c'est Adrien Bosque qui avait reçu un prix pour La Constellation, un roman dont on avait parlé ici dans cette émission.
Très décevant.
Voilà, c'est pour vous. Non, c'est un roman.
Puisque Pierre Ménès signe deuxième mi-temps ce témoignage donc chez Kero, et pour être précis et honnête, et vous l'avez été Pierre Ménès, c'est vous qui racontez l'histoire, mais c'est Catherine Siguré qui l'a écrit. Et pour faire
c'est une belle plume, Catherine Siguré.
Faire un...
Très bon auteur.
Faire un clin d'œil à votre chère et tendre Mélissa. Vous avez dit qu'elle était nantaise. Nous avons un lycée de Nantes qui est là, j'ai bien dit lycée, qui s'appelle le lycée La Perverie, la classe de seconde, qui s'est levée à 4 du pour venir dans cette émission. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être présent dans cette émission.
Dégoûtés.
Ils sont dégoûtés. Non, ils sont pas dégoûtés, ils sont endormis, mais ils sont là, non? Une petite cascade de questions très rapides, des questions courtes et des réponses courtes. Pour Pierre Ménès, on commence avec Leïla.
La meilleure équipe européenne de football pour vous aujourd'hui?
Le Bayern.
Guillaume Auguin.
C'est votre joueur belge préféré?
Ah, belge?
Eden Hazard.
Daniel Morin.
Le joueur surcoté qui en fait ne sert à rien.
Ah, là on parle, là on sent que...
Un joueur surcoté qui sert à rien. Je vais réfléchir.
D'accord.
Votre insulte préférée que vous adressez à un joueur?
Tringle à rideau.
Je pense qu'il faut rester là-dessus. C'est bien.
Mais le joueur.
Le joueur surcoté.
Dans le monde, hein. On est pas là.
Ouais, je vais dire un étranger, comme ça je me fâcherai pas. Cavani.
Et il est surcoté? Ouais. Enfin, c'est le meilleur buteur du championnat?
Oui, c'est le meilleur buteur, mais à côté de ça.
Bon, d'accord,
quelle
Cavani.
Quelle pauvreté.
Mais non, il
quelle
en
pauvreté
met...
dans... Ah non. Mais, il met des buts. Mais il mettait autant de buts l'année dernière. Hein.
Non, plus.
Mais
ça.
dans le jeu.
Non,
oui,
il
est tout seul. Ah, ouais. Dans le jeu, ça reste d'une pauvreté.
Et puis, c'est un mec adorable dans la vie, en plus. Des excuses à présenter, Daniel.
Bon, bah, désolé pour Cavani. Hein. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été choqués en découvrant, comme nous tous, hein, ce matin, que Leïla Kaddour Boudadi était journaliste. Alors, tiens à vous rassurer tous. Hein. Elle vient d'être virée. Elle vient d'être virée.
Et elle sera ce soir aux 20h de France 2.
Elle a trouvé un boulot déjà. Alors, désolé pour Donald Trump. Eh oui, on le sait de source sûre. Il a été terrifié en écoutant le coup de gueule terrifiant de Guillermo Ruiz. Alors, non, ne démissionne pas, ne tremble pas, Donald. Guillermo est viré. Et en plus, vous avez toute la sympathie de Nagui. Désolé pour nos deux auditeurs fans de foot qui se sont sentis insulté quand Leïla Kaddour Boudadi a osé commettre l'irréparable en défendant Raymond Domenech. Je vous rassure, elle vient d'être virée une deuxième fois.
Merci Pierre Ménès, bonne deuxième mi-temps, bonne prolongation, bonne vie.
Et merci.
Embrassez Mélissa et votre maman pour nous parce qu'elles sont en effet remarquables et on regardera avec appétit le Canal Football Club de dimanche soir pour votre retour en famille, en amis, avec des bonnes vibes, et des bonnes vibrations sur ce plateau.
Et peut-être quelques larmes.
De joie de retrouver tout le monde. Oui. Ouais. Lundi, ce sont Mathilde Seigny et Franck Dubosc qui seront nos invités. Les carnets de campagne, c'est maintenant de Philippe Bertrand. Bon retour à la Beaujoire, les Nantais. Merci.